Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Carnet de Région, le magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, dans le Carnet de Région, RCF Maguelone nous parle de la transformation du quartier du Petit Bar qui se poursuit à Montpellier. Radio Escapade nous fait découvrir l'université critique et citoyenne de Nîmes. On parle cinéma avec RPH qui vous propose de soutenir la création d'un court-métrage tourné dans l'arrière-pays héraultais. 48FM nous emmène à la rencontre de Fanny Nogaret, lauréate du prix de l'installation des femmes en agriculture remis par la préfecture de Lozère. On reste en Lozère ensuite, toujours avec 48FM pour parler des contrats signés entre les institutions publiques autour de l'aménagement du territoire. Et enfin, Radio Aviva nous parle cette semaine des projets à venir pour le centre universitaire hospitalier de Montpellier après la nomination d'un nouveau directeur général. C'est parti pour le carnet de région. La transformation du quartier du Petit Bar continue à Montpellier. Un parc public de 7500 m², deux aires de jeu et un plateau sportif ont été inaugurés. Une étape dans le vaste projet de rénovation de ce quartier suite à une escroquerie de l'ancienne copropriété. Les habitants sont en proie à une grande précarité. Des tensions ont d'ailleurs légèrement perturbé la cérémonie. Stéphanie Jeannin est adjointe à l'urbanisme. Elle répondait aux questions de Thomas Lauré pour RCF Maguelone Hérault.
Le plan de rénovation du Petit Bar concerne plusieurs volets, le plan de rénovation urbaine. Il y a eu la réhabilitation des bâtiments qui est quasiment en fin et que vous pouvez voir derrière vous. Et puis il y a aussi toute la question des espaces publics, donc la réfection des rues, des cheminements. Et aujourd'hui, ces jeux d'enfants dont il a été choisi de ne pas les clôturer derrière une grille, mais au contraire de les intégrer totalement dans un grand chemin piéton qui traverse le quartier de part en part, et ce qui est aussi son symbole de son ouverture sur la ville.
Alors, vous le dites, ça rentre dans le plan de rénovation du quartier, parce que le quartier connaît une situation particulièrement difficile. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qui a mené le quartier dans cette situation ?
En fait, ce quartier était l'une des plus grandes copropriétés de France. Les syndics de copropriété de l'époque sont partis avec la caisse, laissant les propriétaires, les copropriétaires dans de grandes, grandes difficultés. La collectivité, à l'époque, a donc décidé d'intervenir dans le cadre des plans de rénovation en rue, avec l'aide de l'État pour réhabiliter ce quartier, resubdiviser les copropriétés, réhabiliter, refaire des espaces publics, clôturer les résidences, faire des cheminements pour les enfants, pour les mamans, pour tous, refaire les rues, réimplanter des terrains de jeu, un terrain de sport. Voilà, c'est un très gros travail qui a été fait. Et nous avons également plusieurs immeubles qui vont également être livrés dans les mois et années à venir. Et concernant les espaces publics, il reste encore quelques espaces publics à finaliser. Le terrain de sport qui sera bientôt inauguré, terrain multisport qui s'adresse à tous les jeunes, aux adolescents, aux enfants, aux petits, aux grands, pour jouer à tous les jeux en toute sécurité.
Alors, c'était quoi l'objectif ? Pourquoi installer ces aires de jeu aujourd'hui ? Il n'y avait pas d'autres priorités avant ?
Non, il n'y avait pas d'autre priorité car le bien-être des habitants et la possibilité qu'ils ont de se détendre, de passer des bons moments au pied de chez eux, eh bien ça, c'est important pour tous les habitants de Montpellier.
On l'a vu tout à l'heure, et il y a malgré tout quelques tensions qui se sont manifestées. Comment on les explique ?
Oui, bien sûr, il y a des tensions. C'est un travail qui a été difficile, très long. Tout ne peut pas être parfait. Mais je crois qu'aujourd'hui, collectivement, les gens sont satisfaits de ce qui se passe ici. Et je crois qu'il faut regarder autour de soi. Et regarder autour de soi au même endroit il y a quelques années. Le quartier a beaucoup évolué. Évidemment, ce n'est pas parfait. Mais ce pan de l'urbanisme est une étape importante dans la rénovation de ce quartier. Alors l'urbanisme, ça ne fait pas tout. Nous sommes dans des quartiers où il y a beaucoup de chômage, une précarité. mobilité et l'urbanisme, ça apporte un cadre de vie. Et ça, c'est indispensable, mais ça ne répond pas non plus à la totalité des problématiques que rencontre une grande partie des habitants de ce quartier.
Alors, quels sont les projets de la ville pour pallier à ces autres problématiques, justement ?
C'est d'aborder par le biais de la politique de la ville, la rénovation des quartiers via un angle d'approche multiple qui est tout autant l'urbanisme que l'économie, la culture, la cohésion sociale, la vie associative. Je crois que c'est une autre manière aussi d'aborder les choses. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir qu'au travers de ces opérations, voilà, on parle aujourd'hui d'aire de jeu. Les élus sont là, le maire est là, aux côtés des habitants du Petit Bar. Et le Petit Bar, c'est un quartier comme les autres, un quartier qui s'ouvre sur la ville et qui fait l'objet de toutes les attentions.
Stéphanie Janin, adjointe au maire de Montpellier et vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l'urbanisme. Propos recueillis par Thomas Loret de RCF Hérault. Le coût de ce nouvel équipement sportif du quartier du Petit Bar, 1,2 million d'euros.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
À Nîmes, l'Université critique et citoyenne qui participe au mouvement des universités populaires est une association qui organise conférences, projections de films et débats ouverts à tous. Françoise Caicedo et Michel Boissard nous présentent leur initiative.
Alors c'est dans les réseaux en fait des universités populaires entre guillemets. Et nous avons préféré, à un moment donné, nous appeler critiques et citoyennes. On trouvait ça beaucoup plus vrai, beaucoup plus réel. Et c'est en fait un lieu, parmi d'autres, parce qu'il y en a d'autres, hein, un lieu où l'on essaie de confronter des clichés, à des points de vue, déconstruire un peu nos préjugés et faire des conférences, mais pas que. On fait aussi des films au sémaphore, du théâtre, etc., pour donner à nos citoyens des points de vue différents et des analyses différentes que la pensée unique.
Oui, on peut ajouter qu'il n'est pas nécessaire, même si le titre d'université pourrait renvoyer à cela, d'avoir un niveau de formation requis pour assister aux manifestations de l'université critique et citoyenne. Deuxième aspect, Françoise a commencé à l'aborder, c'est que c'est une vision critique du savoir, des événements. Par exemple, aujourd'hui, à travers la conférence de Patrick Weil sur le sens de la République, il s'agit de déconstruire tout ce que nous entendons à la radio, à la télévision, par exemple sur l'état d'urgence ou sur la déchéance de nationalité. Sur le vivre ensemble, puisque c'est le thème de cette année, il s'agit effectivement de déconstruire, mais aussi de reconstruire un raisonnement, un savoir, à partir de différents éléments, différents événements qui peuvent se produire dans la vie sociale.
Animateur de la conférence inaugurale 2016, organisée le mardi 26 janvier dernier, l'historien Patrick Weil, auteur du livre « Le sens de la République », s'affirme opposé à l'inscription dans la Constitution de la déchéance de la nationalité. Le débat sur cette question s'ouvrira le 4 février prochain à l'Assemblée nationale. Patrick Weil.
Je trouve extrêmement perturbant et inacceptable, je pense que faut le comprendre bien, bien précisément, c'est de créer deux catégories de citoyens dans la Constitution. La Constitution, c'est notre loi suprême. Elle nous unit, elle est faite pour nous unir. Elle ne peut pas nous diviser, la Constitution. Son article 1 dit que la République est indivisible et qu'elle assure l'égalité des citoyens devant la loi sans considération de leur origine, de leur race ou de leur religion. Et on va justement mettre juste après un article qui va dire « Ah ben si votre origine, si le fait, votre destin a été que vous avez eu un parent ou un grand-parent qui a été étranger, ah ben, vous allez être différent des autres. » Mais ça, c'est contraire à la République. Vous voyez, tous ceux qui nous écoutent, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, peuvent un jour tomber amoureux d'un partenaire, d'une partenaire étrangère. Et leurs enfants, parce que maintenant il y a l'égalité entre l'homme et la femme, quand il y a un couple binational, les enfants ont la double nationalité. Tout d'un coup, vous allez avoir des neveux, des nièces, ou même vos propres enfants, qui vont être différents des autres enfants parce que vous aurez, parce que tombé amoureux d'une étrangère ou d'un étranger. Mais c'est pas possible. On ne va pas créer deux catégories de Français dans la Constitution. Ça va diviser les familles. Et puis c'est ce qui se passe déjà. Les gens se demandent dans les cafés, alors toi t'es binational, ou au bureau, ou au lycée. Est-ce que face au terrorisme, on ne doit pas être d'abord unis? Est-ce que le président de la République ne doit pas rechercher l'unité des Français et pas créer des fausses divisions? Vous savez, au Canada, un ministre extrêmement, premier ministre extrêmement conservateur, ils avaient passé la même mesure. Il y a eu, vient d'avoir des élections. Les deux partis d'opposition qui ont emporté les élections, largement, enfin un seul l'a emporté, mais les deux partis qui n'étaient pas conservateurs ont dit, nous si on est élus, on abrogera la loi qui distingue entre le double national et le... Et qu'est-ce qu'a dit l'actuel Premier ministre canadien, M. Trudeau? Il a dit, ce qui abaisse la citoyenneté d'un seul Canadien, abaisse la citoyenneté de tous les Canadiens.
Vivre ensemble, slogan ou enjeu de société, est le thème d'actualité de la saison 2015-2016 de l'Université critique et citoyenne de Nîmes. Prochaine conférence, le mardi 26 janvier à l'IUFM, animée par Samuel Joshua, conseiller municipal des quartiers nord de Marseille. Conférence qui aura pour titre « Vivre ensemble, obscur objet d'un désir ». C'était un sujet envoyé par Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Parlons cinéma. Nous partons dans l'arrière-pays héraultais qui accueillera bientôt le tournage d'un court-métrage. Le film s'intitule Charon et traite du harcèlement en milieu scolaire. Derrière la caméra, un jeune réalisateur de 26 ans qui n'en est pas à son coup d'essai. À son actif, plusieurs documentaires et des œuvres cinématographiques diverses, parmi lesquelles un film noir ou encore un court-métrage axé sur la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelle Mario Macedano. Il est natif de Bédarieux dans les Hauts-Cantons héraultais et nous parle de la jeunesse du projet.
Ce sujet-là m'est venu il y a déjà plusieurs années en fait avant que je ne lance le projet. J'ai vu aux informations, je suis tombé horrifié devant un reportage dans le journal télé. C'était un jeune qui s'appelle Xavier Destin qui avait tenté de se suicider en s'immolant par le feu. J'avais trouvé ça terrible en fait, mais il a survécu surtout. Et il a ensuite écrit des livres sur son expérience, sur le harcèlement scolaire. Et en fait, en suivant son histoire, j'ai compris qu'il y avait vraiment un très gros malaise à ce niveau-là, quelque chose à faire, et je voulais agir avec mes armes, moi aussi, pour aider à lutter contre le harcèlement scolaire, et mes armes, c'est le cinéma, donc j'ai créé ce projet-là.
Un projet complexe, destiné à être diffusé en milieu scolaire, afin que les professeurs puissent s'en servir de support, un support qui permettrait d'entamer le dialogue avec les élèves en détresse. Le réalisateur souhaite pour cela être pédagogue, et a décidé de traiter le sujet par le biais de la mythologie.
Caron, ça renvoie à la mythologie, donc au passé des enfers. Donc nous on a décidé de traiter le sujet du harcèlement scolaire par le biais de la mythologie et en cela en fait on prend une jeune fille donc une jeune fille Sofia qui va se réveiller dans les limbes, donc perdue dans une forêt, et qui va manquer de se faire renverser par une voiture dans laquelle l'attend le passeur des enfers qui est là pour l'amener de l'autre côté. Donc on comprend au fil du film que Sofia vient de faire une tentative de suicide suite au harcèlement scolaire. Et en fait, tout le film va tourner autour du dialogue dans la voiture du passeur des enfers. Donc le dialogue entre Sofia et Caron. Donc les deux personnages sont liés à la mythologie. Et ça nous permet en fait de traiter le sujet du harcèlement scolaire sans l'attaquer de manière frontale. Donc pour nous l'intérêt c'est que en fait la mythologie c'est quelque chose qui parle pas mal aux jeunes. Et le public cible évidemment de ce projet c'est les jeunes. Dans l'absolu, mon ambition c'est de créer un projet de créer un film qui soit en fait quelque part parapédagogique, donc qu'on puisse diffuser dans des lieux d'enseignement lorsque des cas de harcèlement scolaire se présentent, que les professeurs puissent utiliser finalement ce court-métrage comme un outil pour initier un dialogue. Et le but évidemment c'est pas de le faire comme un spot de prévention finalement contre le harcèlement scolaire, c'est juste de montrer un film aux enfants et que de même en fait dans la discussion ensuite qui pourrait être lancé, viennent eux à parler du harcèlement scolaire, d'abord dans le film, évidemment, ensuite dans leur classe.
Mario Macedano, réalisateur du film Charon. Pour aider l'équipe à réaliser ce court-métrage, sachez que vous pourrez prochainement participer à une campagne de financement participatif via Internet. Pour suivre toute l'actualité du film, rendez-vous sur la page Facebook qui lui est dédiée, Charon, le court-métrage. C'était un sujet de Jordi Oumira Tomézac de Radio Pays d'Hérault. Chaque année, la préfecture de la Lozère et le Centre d'information du droit des femmes et des familles remettent le prix de l'installation des femmes en agriculture. Prix qui récompense l'installation d'une femme à la tête d'une exploitation agricole. Et cette année, la lauréate est Fanny Nogaret, exploitante en Auvin, lait à Fraissinet de Poujol sur la commune de Montbrun au Cosmé-Jean. Installée en décembre 2014 avec son conjoint, l'exploitante vend le lait de ses 250 brebis au Fédou. Alors, si le parcours à l'installation n'a pas toujours été facile, Fanny Nogaret est ravie d'être devenue exploitante agricole.
Le parcours à l'installation a été long, déjà de trouver une ferme, et puis ensuite le parcours à l'installation, c'est vraiment beaucoup d'administratifs et ça a été très très long, environ un an pour s'installer. Alors nous avons acheté les deux bâtiments agricoles et nous louons l'ensemble des terres avec mon conjoint. Depuis que je suis toute petite, j'ai plus ou moins envie de faire ça, après... j'ai fait des études et puis finalement, après avoir travaillé un petit peu, je me suis redirigée sur ce métier. Quand on a envie de faire quelque chose, je crois qu'on va jusqu'au bout. Pour l'instant, ça fonctionne, on est en démarrage. De toute manière, on remonte un peu le troupeau et voilà, donc ça va bien. On a fait des prêts, forcément, mais c'est pas ça qui fait peur le plus, quand même. Ce qui fait le plus peur, c'est faut que ça fonctionne derrière. Il faut qu'il y ait un bon agnelage, que les bêtes aillent bien et que les cultures fonctionnent bien.
Et la lauréate, dans le cadre de ce prix, a reçu 1 000 euros. Écoutez Denis Meffray, directeur de la DDCSPP, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Alors, c'est très important, à la fois pour l'agriculture, l'installation de femmes, et à la fois pour la parité homme-femme, l'égalité professionnelle dans des métiers où les hommes sont plus particulièrement représentés. Alors, deux critères importants, puisque nous n'avons plus qu'un prix cette année, à la fois l'installation en tant que chef d'exploitation et avec un projet d'installation qui sort un peu de l'installation traditionnelle, donc avec de la diversification, de la transformation, de la commercialisation, de l'accueil à la ferme. Donc, on essaye de privilégier une installation un peu particulière. Et deuxièmement, mais c'est compliqué à faire ressortir, c'est que la femme soit réellement chef d'exploitation et réellement affectée à des fonctions sur l'exploitation, qui la mettent à égalité avec l'homme. Monte-t-elle sur le tracteur? Fait-elle les gros travaux? Ou est-elle cantonnée aux tâches plus de transformation fromagère, la traite, qui est traditionnellement féminine? Et là, on recherche effectivement une chef d'exploitation qui fait le même travail que l'homme, voire s'il y a un couple, que l'homme soit plutôt affecté à ces tâches traditionnellement réservées aux femmes.
Et sur une cinquantaine d'installations annuelles, un tiers sont des installations de femmes, mais pas toujours en tant que chef d'exploitation. C'était un sujet de Ludovic Terol de 48 FM.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La semaine dernière, le conseil départemental de la Lozère a signé son 6e et dernier contrat territorial avec la communauté de communes Cœur de Lozère. Un contrat périurbain a également été signé avec la ville de Mende. Ces contrats, qui courent sur la période 2015-2017, vont permettre aux différents territoires lozériens de mettre en place des projets structurants. Ce sont 26,5 millions d'euros qui doivent également soutenir la commande publique et l'emploi, relancer l'économie locale et enfin aménager et développer durablement. 26,5 millions qui vont générer 77 millions d'euros de travaux, certaines enveloppes permettant des cofinancements avec d'autres subventions de l'État, de la région ou des communes. Pour davantage d'équité, ces 26,5 millions d'euros ont été divisés en plusieurs enveloppes. Les explications de Sophie Pantel, présidente du conseil départemental de la Lozère.
On a fait plusieurs enveloppes. On a fait une enveloppe d'envergure départementale. Dans cette enveloppe d'envergure départementale, on y retrouve l'espace événement, on y retrouve les bisons au Bouvier, on y retrouve le château du Tournel, on y retrouve par exemple à Langogne le projet du Grand Lac. Enfin voilà, je pourrais vous citer le CFD pour les Cévennes, la Voie Verte. Ça, c'est le projet d'envergure départementale. On a fait une enveloppe territoriale, par territoire de communauté de communes. Et là, on a mis 4 critères objectifs. La moitié à part égale. Ensuite, il y avait un pourcentage en fonction de la population, un pourcentage en fonction de la longueur de voirie et un pourcentage en fonction de la superficie des territoires. Parce qu'on sait que les petites communes, même s'il y a peu d'habitants, ben, lorsqu'elles ont de grands territoires, ben, c'est beaucoup de kilomètres pour des réseaux d'eau, beaucoup de kilomètres pour l'assainissement. Enfin, donc il y a des surcoûts, le fait d'avoir un grand territoire. Donc là, ce sont vraiment des critères objectifs. Ensuite, on a fait une enveloppe de voirie, parce qu'on ne voulait pas que les communes ou les communautés de communes laissent totalement tomber la voirie communale. Donc on a quand même fléché une obligation de faire un minimum de travaux sur la voirie. On a fait un fonds de rééquilibrage de 700 000 euros, donc 700 000 euros sur les 26,5 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est quand même, mais c'était quand même important et symbolique pour notamment les territoires du sud du département avec un rattrapage pour les routes communales, puisqu'il y avait beaucoup de retard. Et puis, on a fait une enveloppe dite réserve d'un million. Et il fallait aussi garder de la souplesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par des appels à projets. Donc, lorsqu'on a un territoire qui fait l'effort d'aller chercher des financements autres à l'extérieur du département, il fallait qu'on puisse avoir cet effet levier lorsqu'il a besoin de contrepartie et pouvoir intervenir rapidement.
Et nouveauté dans ces contrats, la réintroduction du contrat périurbain avec la ville de Mende, contrat qui avait été supprimé depuis de nombreuses années par l'ancienne majorité. Alain Bertrand, sénateur maire de Mende.
C'est des sommes importantes pour la ville de Mende. C'est sur les 3 ans avec la rocade, l'espace événement et la partie projet annuel, c'est 6 millions d'euros. Donc c'est un effort considérable du département. C'est le rétablissement de la dotation urbaine qui avait été supprimée carrément par la précédente majorité. Et donc c'est important pour l'emploi, pour les entreprises et pour l'avenir du département, et de la ville de Mende et de la communauté de communes. Oui, la ville a été mise au pain sec et à l'eau de nombreuses années par la majorité précédente. On peut le dire, puisque c'est la vérité, la ville a fait les frais du choix catastrophique de Jacques Blanc de faire passer la 75 à la Canourgue. Je rajoute que c'est la Lozère qui en fait les frais, puisque pour que le département marche, il faut que les 176 communes marchent, il faut que les 5 villes marchent, et je ne connais pas de département qui marche sans préfecture qui marche. Voilà, et vice-versa. Donc c'est une excellente démarche. Je félicite la présidente. Je sais qu'elle a des ambitions. Et nous serons partenaires sur les ambitions pour la Lozère.
Et pour relancer la commande publique, les travaux commencent déjà partout dans les différents territoires. C'était un sujet de Ludovic Terol de 48 FM.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est officiel, Thomas Leludec, 51 ans, vient d'être nommé directeur général du CHRU de Montpellier, qui coiffe les directions des hôpitaux de Montpellier, de Sète et de Millau. Il succède à Philippe Domi, qui avait entamé de grands chantiers de restructuration de l'hôpital pour retrouver un équilibre budgétaire. Thomas Leludec arrive du ministère de la Santé à Paris, où il était directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Il emporte le poste face à de nombreux candidats, notamment Rodolphe Bourret, ancien bras droit de Philippe Domi et actuel directeur par intérim du CHRU. Rodolphe Bourret est bon joueur. Pour lui, l'arrivée de Thomas Leludec peut provoquer le changement.
Il y a eu un choix qui a été fait ou qui est en cours d'être fait. Quelquefois, il faut faire ce qu'on nous demande, c'est-à-dire aller dans l'innovation et la réforme. Et je crois que c'est une bonne chose pour notre pays également d'essayer d'être réformateur.
Rodolphe Bourret, donc bon joueur qui soutient le nouveau directeur général du CHU de Montpellier, Thomas Leludec, pour les grands projets à mener en 2016, des projets résolument tournés vers l'Europe.
Sur 2016, on a 16 projets européens. Effectivement, de plus en plus, on va se tourner vers l'Europe sur les projets de recherche. On a augmenté en 3 ans, on a doublé notre capital de projets européens, ce qui est un marqueur fort de notre compétence parce que c'est très difficile d'aller sur ce domaine d'excellence européenne et en concurrence avec d'autres équipes européennes. Pour ce qui est de la labellisation, on a une labellisation très forte au niveau du CHU de Montpellier, de la région, du CHU de Nîmes et de l'Université de Montpellier, qui concerne les maladies chroniques et le vieillissement actif et en bonne santé. Pour nous, c'est un fil rouge que nous conduisons sur à peu près toute notre stratégie. Et ce projet a obtenu en 2012, en 2012-2013, le label européen, effectivement, et que l'on va renouveler dans les prochains jours en faisant de nouveau une demande de reconduction auprès de l'Union européenne.
De grands projets européens à venir, donc, au CHRU de Montpellier. Ces projets devraient se préciser avec l'arrivée prochaine du nouveau directeur général. C'était un sujet de Radio Aviva. C'est la fin de ce numéro de Carnet de Région. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci aux radios associatives qui y ont participé. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Carnet de Région.
Carnet de Région. L'actualité en langue de Croussillon.